Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis après Vulbasos entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous avez la possibilité aussi de récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite, donc n'hésitez pas, ça vous permet de nous écouter quand vous le souhaitez, quand vous êtes disponible. Donc n'hésitez pas à récupérer sur le site Internet qui est riche. De contenu, bien évidemment. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin. C'est la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Ah ouais, bah c'est un petit peu d'actualité tout ça finalement. Et donc là, c'est une journée mondiale. On va être sur une des actions de sensibilisation aujourd'hui pour ce 17 juin. Il y a 2 ans, l'équipage de Shenzhou 12 devient le premier à occuper la station spatiale chinoise. On a pas mal parlé de l'actualité spatiale de la Chine la semaine dernière. Et donc là, voilà, ça montre déjà que la Chine est en plein essor dans la conquête spatiale. Au niveau de l'éphéméride, 17 juin 1714, naît César Cassini, géodésien, cartographe, astronome français. Cassini, oui, ça nous dit peut-être un petit peu quelque chose. Sa carte de France est l'un des classiques du genre. Il va corriger la méridienne qui passe par l'observatoire et sera chargé de la description géométrique de la France. Le fruit des travaux de Cassini sera donc une belle carte de France composée de 180 feuilles publiées au nom de l'Académie des sciences. Nous sommes sur une cinquantaine d'années, hein, entre les années 1744 et 1793. Ça va offrir la représentation la plus fidèle du pays sur une échelle assez intéressante également, parce que ça apporte des précisions vraiment intéressantes. César Cassini ne pourra achever cette vaste entreprise parce qu'il est mort en 1784 et c'est son fils Jean-Dominique Cassini qui sera chargé donc de terminer cette cartographie totalement fascinante que l'on peut consulter notamment sur Internet ou dans certaines bibliothèques, bien évidemment. Décès le 17 juin 1940 d'Arthur Harden, biochimiste anglais. Il a reçu le prix Nobel de chimie, notamment avec un autre chercheur, Hans von Euler-Chaplin, notamment pour leur recherche sur la fermentation du sucre et des enzymes de fermentation. Harden, il va étudier les produits de la décomposition du sucre et la chimie des levures. Il produit également une série de publications sur des vitamines contre le scorbut, notamment. Harden, qui est un nom qui, lui, n'est pas nécessairement passé à la postérité, il était anglais. Il est donc décédé le 17 juin 1940. Au niveau de l'actualité scientifique, pas mal d'annonces et pas mal aussi de peut-être de révélations, notamment cet article dans Futura Science qu'on a pu retrouver également ailleurs concernant les fabricants de produits chimiques qu'on appelle les produits chimiques éternels. L'industrie du tabac savait que son activité nuisait gravement à la santé publique. Cela ne l'a pas empêché de produire toujours plus de cigarettes. Les pétroliers, les gaziers savaient de leur côté que leurs produits allaient mettre un peu le feu à la planète et ils n'ont pas pour autant restreint leur volume de vente de combustible possible. Eh bien, jamais 203, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'histoire semble vouloir une fois de plus se répéter. Il y a des chercheurs de l'Université de Californie qui révèlent en effet que l'industrie chimique a habilement caché ce qu'elle savait de la toxicité de ce qu'on appelle les PFAS, PFAS, les produits chimiques éternels. On les retrouve dans nos vêtements, dans nos produits ménagers et même dans nos préparations alimentaires. Ils s'avèrent extrêmement persistants, aussi bien dans l'environnement que dans le corps humain. C'est pour ça qu'on les appelle les produits chimiques éternels. Le pire, c'est qu'ils peuvent provoquer des problèmes de santé, de type maladie de la thyroïde, l'obésité ou même encore le cancer. Selon les chercheurs qui ont analysé des documents d'un géant de la chimie qui s'appelle Dupont, à qui on doit notamment le nylon, le téflon, le lycra, ils ont également analysé des documents de l'inventeur du scotch 3M. Ces industriels connaissaient les dangers de ces PFAS et ils ont choisi de n'en informer ni le public, ni les régulateurs, ni même leurs propres employés. Les études qu'ils avaient menées montraient les effets néfastes des produits chimiques éternels sur la santé au moins 21 ans avant qu'ils ne soient rendus publics. Et pour garder leur secret, secret. Les industriels de la chimie ont systématiquement classé leurs études confidentielles, indiquant même parfois qu'ils voulaient que les documents soient détruits. Mais 45 années de ces archives ont été révélées par une action en justice menée en 2018 par un avocat spécialisé en environnement. Il s'appelle Robert Bellot. Et les chercheurs ont ainsi pu analyser les stratégies de ces deux entreprises Dupont et 3M pour protéger leurs produits. Il montre par exemple que dès 1961, il y a un rapport qui présente, je cite, « la capacité du téflon à augmenter la taille du foie des rats à faible dose ». Et ce rapport a conseillé que les produits chimiques soient manipulés avec un soin extrême en évitant strictement le contact avec la peau. Nous sommes en 1961. En 1979, il y a un autre rapport qui fait état de chiens morts deux jours après ingestion d'une molécule, le C8, qui est l'acide perfluoro-octanoïque. C'est en fait produit chimique éternel qui est très répandu. Deux des huit femmes enceintes ayant travaillé à la formulation de ces substances ont donné naissance à des enfants porteurs de malformations, ce qui n'a pas empêché donc l'entreprise Dupont en 1980 d'abord, puis dans un communiqué de presse daté de 1991, d'affirmer que, je cite, la toxicité de cette molécule C8 est de l'ordre de celle du sel de table et que le C8 n'a aucun effet toxique ou nocif connu chez l'homme au niveau de concentration détectée. Alors que l'attention du public était attirée sur la problématique à partir de la fin des années 90, eh bien l'entreprise Dupont demandait instamment à l'Agence de protection de l'environnement américaine de dire rapidement que les produits de consommation vendus sous la marque Teflon sont sûrs et qu'il n'y a pas d'effet sur la santé humaine connu. En 2004, cette Agence de protection de l'environnement américaine infligeait une amende de presque 16 millions de dollars à l'entreprise Dupont pour n'avoir pas divulgué ses conclusions. C'est rien, bien sûr, face aux revenus annuels de l'entreprise de l'ordre du milliard de dollars. Il y a de nombreux pays qui poursuivent des actions juridiques et législatives pour freiner la production de ces polluants éternels et nous espérons qu'ils seront aidés par la chronologie des preuves présentées dans notre étude, c'est ce que soulignent donc les chercheurs. Alors attention, justement, on retrouve ce C8, une substance chimique, une autre, qui est présente dans le sucralose, qui brise l'ADN, qui nuit à la santé de l'intestin, tout ça d'après des chercheurs américains. Une seule boisson quotidienne contenant cet édulcorant suffirait à dépasser le seuil limite fixé par l'autorité européenne des sécurités des aliments et donc pourrait être nocif pour la santé. Il y a une nouvelle étude qui montre qu'un édulcorant artificiel très utilisé dans le monde entier comme substitut du sucre est à l'origine des dommages de l'ADN. On parle donc bien là du sucralose présent dans des milliers de produits alimentaires, de boissons, de produits pharmaceutiques. Le sucralose, il est vendu en France sous le nom de Canderel, donc on voit très bien de quoi on parle. Le pouvoir sucrant est environ 600 fois supérieur à celui du sucre. Les chercheurs ont mené plusieurs expériences en exposant des cellules sanguines humaines d'une part et des tissus intestinaux humains d'autre part face à ce produit et bien il s'avère ce qu'on dit génotoxique, c'est-à-dire qu'il va briser l'ADN des cellules qui lui sont exposées. Il y a également ce qu'on appelle une fuite de l'intestin, c'est-à-dire que les substances qui devraient normalement être éliminées de l'organisme, notamment par les selles, eh bien elles s'échappent de l'intestin, elles sont absorbées dans la circulation sanguine. Et il y aurait également une activité accrue dans les gènes qui va pouvoir du coup enclencher des inflammations, voire un risque de cancer. Voilà, cette étude est assez alarmiste, alarmante, inquiétante, révèle donc qu'on savait tout depuis le départ, que là encore on est toujours dans une espèce de balance entre d'un côté la science, la technologie et les connaissances, l'état des connaissances que l'on a à l'instant T, et puis le reste de la balance c'est bien sûr le point de vue économique, bien évidemment, et on sait très bien en général vers quoi on souhaite pencher, donc c'est pas nécessairement non plus une très grande révélation. En tout cas, cette étude, je n'ai pas trop l'impression qu'elle a fait beaucoup parler d'elle, alors qu'il y a derrière un véritable scandale, bien évidemment. On suivra ça pour voir un petit peu les répercussions qu'il peut y avoir. Mais voilà, on a été au courant du côté nocif de ces produits chimiques éternels, selon le terme consacré, bien évidemment. On va continuer à parler de l'actualité scientifique. Juste après un titre, on va écouter un certain ratio sur l'antenne de Graphite. Il y a pas mal encore d'articles que je souhaite évoquer dans cette émission. A tout de suite sur l'antenne de Graphite. Thank you. A Certain Ratio, c'était sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. On a parlé pas mal de l'intelligence artificielle lors de l'émission de la semaine dernière. Il y a encore un petit exemple, alors peut-être un petit peu plus anecdotique, d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est plus de 5 décennies après la séparation des Beatles. Eh bien, l'intelligence artificielle a permis la création de nouvelles chansons du groupe, comme si elles avaient été enregistrées à l'époque. Alors, ce travail, qui est l'œuvre d'une chaîne YouTube du nom de Dare Limbs, ça a ému de nombreux fans. Le créateur a pris plusieurs chansons de Paul McCartney et Ringo Starr et a utilisé l'intelligence artificielle pour ajouter les voix manquantes des autres membre du groupe. Sur la chanson New de Paul McCartney, il a ajouté la voix de John Lennon ainsi que des harmonies des autres membres, et il a également rajeuni la voix de Paul McCartney. Toutefois, le créateur de ces vidéos, qui avoue lui-même être un grand fan des Beatles, a vu plusieurs de ces vidéos supprimées de la plateforme à cause de réclamations par les ayants droit, et il a pour l'instant rendu la plupart de ces vidéos privées en attendant de trouver une solution. Il ne reste donc que 2 titres des Beatles, Grow Old With Me, qui est écrite par John Lennon, et It Don't Come Easy de Ringo Starr. Alors, à l'heure actuelle, ce genre de citation nécessite tout de même de sérieuses connaissances, mais ce n'est qu'une question de temps avant que des outils simplifiés ne soient disponibles pour le grand public, ce qui risque bien sûr de poser de nombreux problèmes assez sérieux de droits d'auteur. Pour sa part, donc, Dale Imms indique avoir été contacté par plusieurs labels et espère à l'avenir pouvoir remasteriser des titres grâce à l'intelligence artificielle de manière officielle. Mais voilà, on est un petit peu sur une utilisation des buts encore commerciaux, hein, comme toujours. Mais en tout cas, c'est assez troublant de voir cette intelligence artificielle qui recrée des chansons des Beatles 50 ans après leur séparation. Effectivement, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais voilà, je sais pas, on est toujours un peu surpris par ce genre d'information, parce que c'est une utilisation originale de l'intelligence artificielle, mais derrière il y a toujours des questions d'ordre éthique, d'ordre de droit également, d'ordre législatif bien sûr, pour lesquels finalement on n'a pas encore nécessairement bien réussi à trouver une solution. Donc la technologie avance. Là, pour le reste, ça stagne un peu, malheureusement. Science et Avenir, tous les mois, c'est une revue donc mensuelle de vulgarisation scientifique, il y a toujours des pages assez intéressantes sur les petites brèves qui nous permettent d'avoir de nous tenir informés de l'avancée de certaines équipes de recherche du monde entier. Par exemple, il y a en termes de génétique, on a pu séquencer le génome du chien Balto, et célèbre en fait pour avoir participé en 1925 à la livraison héroïque de vaccins contre la diphtérie à une communauté d'Alaska qui était en proie à une épidémie. Ce chien croisé Balto possédait une diversité génétique qui lui conférait une endurance et une meilleure santé que celle des chiens de race. C'est ce que révèle justement l'analyse des 682 génomes de chiens et de loups, dont celui de Balto. Son ADN montre que s'il partageait plus de 60% de son ascendance avec des lignées plutôt arctiques comme le Husky ou les chiens du Groenland, il est aussi apparenté à des lignées asiatiques à plus de 20%, dont des chiens de village vietnamiens et même des dogs du Tibet. Donc Balto, c'est ce chien qui avait participé à une expédition en Alaska. C'est ce qu'on avait surnommé la course au sérum pour cette expédition. Et on a pu en savoir un petit peu plus sur le fait, mais pourquoi ce chien avait une telle résistance dans des conditions climatiques assez particulières. L'ADN donne justement, enfin l'analyse de l'ADN donne quelques informations. Le secret de fabrication du ciment Maya a été élucidé. Pour obtenir la solidité exceptionnelle du ciment Maya, il faut ajouter à la chaux vive la sève de 2 arbres locaux. C'est la découverte de chercheurs espagnols sur les conseils de maçons indiens du Honduras. L'apport des chaînes glucidiques, du glucose, parce qu'on parle de sève, et tout cela aux cristaux de calcite, donc la chaux, ça confère au matériau une grande résistance au choc et à l'effet dissolvant de l'eau, que ce sont bien sûr des propriétés que l'on retrouve chez les coquillages par exemple. Et voilà, on en sait un petit peu plus sur la fabrication de ce ciment Maya. Le prix de vente d'un squelette de T-Rex, il s'appelle Trinity précisément. C'est un squelette composite regroupant les fossiles de 3 T-Rex, des espèces ayant vécu il y a environ 66 millions d'années. Eh bien, ce squelette a été vendu aux enchères par la maison Collier en Suisse. C'est seulement le 3e T-Rex vendu ainsi dans le monde. Si vous vouliez l'acheter, il fallait débourser 5 600 000 euros quand même pour ce squelette de T-Rex. 5 millions d'euros un squelette de T-Rex. Ça peut être intéressant si vous en avez un chez vous, vous pouvez le marchander. Enfin, en paléogénétique, il y a une nouvelle méthode qui a permis de prélever de l'ADN humain sur un pendentif vieux de 20 000 ans, sans avoir à réduire en poudre justement ce pendentif. Le procédé d'extraction consiste à plonger les artefacts dans un bain dont la chimie va pouvoir séparer les molécules d'ADN. C'est une première réalisée sur une dent de wapiti qui avait conservé dans ses pores les traces de sueur. Et donc on a pu retrouver de l'ADN ancien extrait de traces de sueur grâce à ce dispositif qui fait que justement on n'a pas à détruire le support. Là, en l'occurrence, c'était un pendentif, mais ça peut être assez intéressant d'avoir les informations sans être obligé de détruire l'échantillon, bien évidemment. C'est l'été, bientôt, et avec l'été apparaissent les moustiques. Il y a cette étude, j'ai trouvé assez intéressant. Elle était assez anecdotique aussi, mais bon, écoutez, c'est un peu la fin de l'année, on va se faire plaisir. Et on va parler des moustiques et se demander pourquoi il y a certaines personnes qui sont des aimants à moustiques, alors que d'autres ne sont jamais piqués. Il y a plusieurs théories qui tentent d'expliquer cette injustice, dont notamment la théorie de l'odeur corporelle qui est propre à chaque personne. Nos expirations de CO2, notre chaleur, ainsi que les signaux olfactifs que nous émettons attirent plus ou moins les moustiques femelles dans notre direction. De plus, l'être humain utilise des parfums et des savons depuis l'Antiquité, ce qui modifie l'empreinte olfactive guidant les moustiques. Une équipe de chercheurs de l'université de Virginie aux États-Unis qui rapporte dans la revue Science que le choix du savon présente son importance, mais qu'il existe également une interaction non négligeable avec le profil olfactif unique à chaque personne. Et on a donc travaillé sur 4 savons commerciaux qui sont des grandes marques aux États-Unis. Pardon, excusez-moi. Les chercheurs ont donc mené des expériences sur 4 volontaires. Dans un premier temps, ils ont caractérisé les odeurs chimiques propres à chaque participant. Alors, sans surprise, on sait que chacun a aimé son propre profil d'odeur qui attirait plus ou moins les moustiques. Et dans un deuxième temps, eh bien, on a lavé les avant-bras de chaque volontaire avec environ 1 gramme de ces marques de produits cosmétiques. On les a lavés pendant 10 secondes. Après, on a fait un rinçage à l'eau également. Et il y a des bandes de nylon et du papier aluminium qui ont permis d'imprimer l'odeur du savon. Et les scientifiques ont répété l'opération avec également toutes les autres marques de savons commerciaux. Donc, il y a eu 4 produits qui ont été testés. Tous les savons contenaient un produit chimique appelé limonène. Le limonène, c'est un répulsif connu pour les moustiques. Mais bien qu'il s'agisse du produit chimique principal dans tous les savons testés, 3 des 4 savons ont augmenté l'attraction des moustiques. Alors c'est assez étonnant parce que donc dans le produit de base, il y a un répulsif et en fait on se rend compte que ça attire plus les moustiques. C'est ce qu'explique Clément Vinauger, l'auteur principal de cette étude. Les moustiques ont eu tendance à éviter un petit peu les bandes qui ont été lavées avec une marque de savon en particulier. Et pour une même marque de produit de lavage, les chercheurs ont constaté des différences d'attirance suivant un petit peu la personne qui avait été testée. Alors, ça suggère qu'il existe une véritable interaction entre les odeurs et que le lavage au savon modifie notre odeur corporelle. Et donc, on remarque que la même personne qui est extrêmement attirante pour les moustiques lorsqu'elle n'est pas lavée, elle peut être rendue encore plus attirante pour les moustiques avec un savon. Et puis, elle peut, au contraire, devenir repoussante pour les moustiques avec un autre savon. Donc, c'est assez intéressant. Et on est dans une question de rapport un petit peu entre les différentes substances chimiques qui sont mises en jeu. Donc, Pour identifier les ingrédients spécifiques qui attirent ou qui repoussent les moustiques, les chercheurs ont analysé les compositions chimiques des différents produits. Ils ont identifié 4 substances chimiques associées à l'attraction des moustiques et 3 substances chimiques associées à leur répulsion, dont l'une de ces substances à l'odeur de noix de coco. C'est étonnant parce qu'on a un petit peu l'impression que la noix de coco, c'est sucré. En fait, ça pourrait être un répulsif. L'idée de tout ça, parce que là, on est plutôt sur une anecdote, en fait, c'est beaucoup plus sérieux. L'idée de trouver des répulsifs contre les moustiques, ça permet bien sûr de pouvoir diminuer la transmission des maladies infectieuses véhiculées par les piqûres de moustiques, justement. Et donc, du coup, si on arrive à trouver une formule qui puisse être efficace et qui puisse concerner le plus grand monde, on aura gagné. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, mais on se rend compte que parfois l'odeur de gel douche peut agir comme un aimant à moustiques, alors que peut-être au départ vous n'aviez peut-être pas nécessairement une peau qui allait attirer les moustiques. Vous voyez, c'est assez compliqué finalement tout ça, parce que certains sont des répulsifs naturels ou plutôt des aimants naturels, et le fait de faire agir un savon selon différentes marques de savons commerciaux, eh bien ça peut avoir une influence bénéfique ou non. À vous de trouver la bonne formule, on va dire tester plein de savons, puis vous verrez bien quelle est la bonne formule. Faites votre expérience scientifique, en fait, c'est ça. C'est ça le but, c'est ça la finalité, en fait, de cette annonce qui a été faite. C'est de pouvoir tester vous-même, faites votre propre produit miracle qui vous permettrait de repousser les moustiques, parce qu'on n'en peut plus des moustiques l'été. Allez, un peu de musique.
Prohibido dar un paso sin lo que te está pasando. Cada loco con su tema, cada cual a su manera, tratando de evitárselo. Y en ese olvido quita tu mundo trágico. Mira que eso duele un montón cuando cuento bien y pego un jalón, que uno va bajando y bajando. Alas en tu brazo, muchacho, alas pa' ver, pa' botar. Pase lo que pase, ya tiempo hace que viene sin quemarse. La torre.
Thank you.
La Torre, c'était Gabriel Rios avec Devendra Benhart sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent bien sûr sur Internet. Je rappelle que sur le site Internet, vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions. Donc n'hésitez pas, nous continuons à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique avec des informations qui sont réjouissantes et parfois qui sont un peu plombantes, qui vont plomber un petit peu la bonne humeur de ce jour. Mais bon, que voulez-vous, ce sont aussi des articles qui sont qu'on peut également évoquer, notamment concernant les attaques cardiaques qui seraient plus fréquentes le lundi. On dit que le travail, c'est la santé. Peut-être pas pour le système cardiovasculaire. C'est une nouvelle étude présentée aujourd'hui à la conférence de la British Cardiovascular Society à Manchester, au Royaume-Uni. Cette étude révèle que les crises cardiaques graves sont plus fréquentes le lundi, soit donc au début de la semaine de travail pour la majorité de la population. Alors, on connaissait le phénomène du Blue Monday, c'est un lundi de janvier qui est considéré comme le jour le plus déprimant de l'année. Eh bien, on n'a pas nécessairement d'explication, en tout cas c'est assez incomplet en ce qui concerne le fait que le lundi serait le jour où il y aurait plus d'attaques cardiaques. Pour les maladies cardiovasculaires, les chercheurs ont mis en évidence un lien avec le rythme circadien, c'est-à-dire le cycle de veille et de sommeil de l'organisme. Et donc la survenue d'un infarctus, c'est un petit peu en décalage de ce que l'on peut avoir. Ça serait maximal en fin de matinée, même si la cause, elle est probablement multifactorielle. On n'a pas nécessairement toutes les informations pour trouver cette forte corrélation statistique entre le début de la semaine de travail et l'incidence de cet infarctus. Les médecins ont analysé les données de plus de 10 500 patients. C'est en Irlande que ça s'est fait. Ils ont été admis à l'hôpital entre 2013 et 2018 pour ce type de crise cardiaque. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on est quand même sur un nombre assez conséquent, un peu plus de 10 000 personnes pour cette analyse. Les chercheurs ont trouvé un pic dans les taux d'infarctus au début de la semaine de travail, en particulier donc le lundi. Les taux étaient également plus élevés que prévu le dimanche. Il y a un communiqué qui précise qu'au Royaume-Uni, plus de 30 000 personnes sont admises chaque année à l'hôpital à la suite d'un infarctus du myocarde. Et cette étude apporte des preuves supplémentaires sur le moment où surviennent les crises cardiaques particulièrement graves. Mais nous devons maintenant comprendre ce qui fait que certains jours de la semaine sont plus propices aux crises cardiaques. Cela pourrait aider les médecins à mieux comprendre cette maladie mortelle et à sauver davantage de vies à l'avenir. C'est ce qu'a déclaré le professeur Nilesh Samani, qui est donc le responsable de cette étude. Donc voilà, on constate que les attaques cardiaques sont plus fréquentes le lundi. On ne sait pas encore nécessairement pourquoi, mais peut-être un lien avec le week-end précédent. Enfin, à voir. C'est pour l'instant juste un constat et on verra ensuite peut-être les causes de tout cela. On parle depuis plusieurs années maintenant, en tout cas dans cette émission, du réchauffement climatique. Et ce que l'on constate, c'est qu'environ 14% de la population globale est responsable des émissions historiques de carbone qui dépassent les seuils limites pour la bonne santé de la Terre. Les populations les plus défavorisées sont les plus touchées par les conséquences du réchauffement climatique et les plus impactés sont ceux qui contribuent le moins en fait à la hausse globale des températures liées aux émissions de gaz à effet de serre. Ce sont essentiellement les peuples du sud de l'hémisphère nord, des populations qui en plus d'avoir un impact moins néfaste sur l'environnement sont celles qui sont les moins intégrées aux grandes décisions internationales sur l'avenir de la planète. Et donc pour les auteurs de cette étude qui a été publiée dans la revue The Lancet fin mai, il s'agit d'une véritable discrimination. L'objectif des auteurs est de pointer du doigt l'accès aux ressources naturelles qui est inégal. tout comme la représentation politique et le traitement social. Alors, les cartes qui ont été réalisées pour l'étude montrent un peu un monde à l'envers, c'est-à-dire que les pays les plus pollueurs et donc les plus responsables du réchauffement climatique se situent tous au nord de l'hémisphère, donc vraiment sur la partie hémisphère nord. Et à l'inverse, les pays les plus concernés par un risque de surmortalité d'ici 2050, qui donc est lié au réchauffement climatique, eh bien, ces pays se situent tous au niveau de cet hémisphère nord, mais au sud de cet hémisphère nord. Le schéma montre la même répartition des risques de mortalité en ce qui concerne les maladies telles que la diarrhée, la diphtérie, la nutrition, la malaria. Donc c'est l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est qui sont les régions les plus touchées. Cependant, la situation est différente en ce qui concerne les risques de coups de chaleur mortels. Le monde entier est désormais concerné, quasiment avec le même niveau de risque. Les deux hémisphères présentent une menace à peu près égale, même si le centre de l'Afrique et de l'Asie reste encore au-dessus de la moyenne, notamment la Namibie, l'Angola, le Gabon, le Congo, le Kazakhstan, la Mongolie et l'Ouzbékistan, qui sont les pays où le risque de mourir d'un coup de chaleur est le plus grand. Cette estimation de la mortalité liée au réchauffement climatique ne se base pas uniquement sur la hausse des températures, mais aussi sur les nombreuses catastrophes associées au changement climatique, comme les inondations, l'accès aux abris, à la climatisation, au transport et aux soins de chacune des populations. Alors, tout risque confondu, c'est au Congo, en Angola et au Gabon que le risque de mourir de l'une de ces quatre conséquences est le plus grand. Ces trois pays africains sont les grands perdants du réchauffement climatique. Alors, l'étude, elle met aussi en évidence une autre inégalité qui est un petit peu invisible sur les cartes. Ce sont les disparités au sein d'un même pays, voire même parfois au sein d'une même ville. Aux États-Unis, par exemple, les populations noires et hispaniques se situent dans des quartiers plus chauds que les blancs. De même, ces deux catégories de populations moins favorisées ont un accès plus limité à la climatisation, notamment en raison de revenus financiers plus bas. Et les femmes sont aussi, de manière générale, moins bien protégées des conséquences du changement climatique en comparaison avec les hommes. Lorsqu'il s'agit de femmes noires et hispaniques, eh bien, le risque pour elles de mourir des conséquences du réchauffement climatique est encore plus grand parce qu'elles sont moins bien logées et se déplacent moins facilement lorsqu'elles n'ont pas de véhicule. Donc, on est sur là des constatations, sur de la statistique, mais on se rend compte que ce réchauffement climatique va faire de plus en plus de victimes d'ici 2050, que ça a évidemment de nombreux impacts sur la santé et donc par conséquence sur la mortalité. Et ce qui est assez intéressant, voilà, c'est que l'on constate de manière disproportionnée des différences au sein de même pays et parfois même au sein de même ville. Allez, les petites brèves de Science et Avenir qui vont un petit peu nous faire plaisir. Pour attirer les insectes dans leur urne, eh bien, les plantes carnivores qu'on appelle les saracénies libèrent des odeurs adaptées à leur proie. C'est ce que montre une étude française, précisément de l'université de Montpellier. Ces plantes carnivores d'Amérique du Nord font varier leurs composés odorants volatiles pour charmer spécifiquement les fourmis, les mouches, les abeilles ou les papillons. Et elles sont associées à la taille de leur urne. Eh bien, les odeurs permettent même de prédire le menu préféré de chaque espèce de ces plantes. C'est-à-dire qu'elles vont produire une odeur spécifique. S'il y en a une qui veut manger des fourmis, ça va être telle odeur. Si l'autre veut sa voisine manger plutôt des mouches, ça sera une autre odeur. C'est assez intéressant. On sait que l'ours, il est presque immobile durant ses 4 mois d'hivernation. Il est pourtant protégé de la formation de caillots sanguins. Tout cela par la modulation d'une petite protéine plaquettaire qui s'appelle HSP47. C'est ce que montre une étude ayant comparé le sang d'ours actif et d'ours en plein hivernage. Cette molécule et cette protéine est impliqué chez l'humain dans la formation de caillots, eh bien, elle disparaît, cette protéine, en période d'inactivité des ours, qui vont donc pouvoir les protéger contre les thromboses veineuses. C'est une information qui nous vient de l'université de Munich, en Allemagne. Le premier vol d'essai orbital de Starship, la fusée géante de SpaceX, elle s'est soldée par un échec le 20 avril dernier, on en avait parlé dans cette émission. Si le lanceur de 120 mètres de haut s'est élevé à une altitude de 39 km, il a dû s'auto-détruire 4 minutes et 2 secondes après le décollage, sans pouvoir atteindre l'orbite basse. Surtout, le pas de tir a été partiellement détruit par la puissance des moteurs qui a expulsé des débris métalliques et des morceaux de béton aux alentours, jusque dans des habitats d'espèces protégées, nous dit-on. Pour la société d'Elon Musk, toutefois, le décollage est en soi une réussite. Bah, écoutez, tant mieux s'il le considère. On suivra bien sûr l'actualité aussi de SpaceX dans ses prochaines émissions. Autre information en termes de géologie, grâce au sismomètre français qui a opéré sur la planète rouge Mars de 2018 à 2020, il y a une équipe internationale qui a pu détecter et analyser des ondes sismiques qui ont traversé de part en part la planète en passant par son noyau. Elles indiquent que celui-ci serait entièrement liquide et beaucoup moins dense que le noyau de la Terre. Donc on constate que Mars posséderait un noyau liquide. C'est l'université de Bristol aux États-Unis qui a un petit peu condensé toutes ces informations. Enfin, on a parlé d'intelligence artificielle, on en reparle encore. Le lauréat du Sony World Photography Award en mars, le photographe allemand Boris Helgesen a refusé son prix. Le motif, c'est que son œuvre, qui est un portrait assez énigmatique de deux femmes, a été créée intégralement par intelligence artificielle, contrairement à ce qu'il avait assuré au jury. Alors celui-ci estime donc le jury avoir été trompé. L'artiste, lui, dit qu'il souhaitait montrer à quel point ce type de concours était peu préparé à la déferlante de l'intelligence artificielle générative. Mais donc voilà, cette photo créée par l'intelligence artificielle, elle crée le malaise. Bah oui, 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 parce qu'on en parlait aussi la semaine dernière dans cette émission. C'est qu'on est à un constat qui fait qu'on va difficilement pouvoir essayer de, comment dire, d'identifier le vrai du faux en termes de rédaction. Et donc là, en termes de photographie, bien sûr, ça va être de plus en plus compliqué avec derrière aussi peut-être des... comment dire, d'un point de vue législatif, les droits d'auteur, qui est l'auteur ? C'est l'intelligence artificielle ou c'est celui qui a acheté le logiciel et qui l'a programmé ? C'est toute une question, en fait, derrière, qui mérite d'être posée. Et surtout, enfin, je dirais, à un moment, il va falloir aussi pouvoir donner les vraies réponses pour qu'on ne puisse plus se retrouver dans des embarras, pardon, tels que là. Alors bon, là, c'est un concours photo. En soi, c'est pas nécessairement dramatique. Mais ça pose quand même une question pour l'aspect créatif et artistique dans de nombreux domaines. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On écoute un dernier titre dans cette émission et on va continuer à feuilleter l'actualité scientifique. With you, the sun shines bright. With You, c'était Curtis Harding sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, entre 12h et 13h, vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique, sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je me suis totalement mélangé dans mes feuilles. Je ne retrouve plus l'article que je souhaitais évoquer avec vous. L'ANSES, c'est ça. C'était une alerte de l'ANSES. L'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui met en garde contre le surdosage en vitamine D chez les nourrissons. On sait que la vitamine D, c'est nécessaire pour assurer la croissance des os, ça permet de prévenir une maladie de la croissance et de l'ossification qu'on appelle le rachitisme. En effet, la vitamine D favorise l'absorption digestive du calcium et elle régule l'activité de construction des os. Mais la vitamine D, elle a aussi d'autres bienfaits sur l'immunité, l'inflammation, la tension artérielle. En France, elle est prescrite dès les premiers jours de la vie et comme pour tout médicament, il faut administrer la bonne dose de vitamine D à son enfant. Si ne pas en donner assez peut avoir des conséquences pour sa santé, eh bien en donner trop peut aussi être dangereux. Un excès de vitamine D entraîne ce qu'on appelle une hypercalcémie, c'est-à-dire un taux de calcium trop important dans le sang. Et donc l'ANSES a l'année dernière enregistré 3 cas de surdosage en vitamine D chez des nourrissons qui ont donc entraîné ces hypercalcémies sévères. Et donc dans les 3 cas, les nouveau-nés n'avaient pas reçu des médicaments, mais des compléments alimentaires contenant de la vitamine D. C'est pourquoi l'ANSES a publié donc un communiqué il y a quelques semaines pour rappeler les recommandations au sujet de la vitamine D. Elle doit être prescrite sous forme de médicaments par un professionnel de santé. Il ne faut pas donner de vitamine D à son enfant sous forme de compléments alimentaires. Ces compléments alimentaires ne sont pas soumis en fait à une régulation aussi stricte que celle des médicaments et les concentrations de vitamine D contenues donc dans les compléments alimentaires ne sont pas aussi fiables que celles qui sont contenues dans les médicaments. Les parents doivent respecter bien sûr la posologie notée sur l'ordonnance et ne pas donner à leur enfant d'autres produits contenant de la vitamine D ou enrichis en vitamine D pour éviter justement tout risque de surdosage. De nouvelles recommandations concernant la supplémentation en vitamine D des enfants allant jusqu'à 18 ans avaient déjà été publiées en 2022, ces nouvelles recommandations. Mais donc du coup, face à ces cas qu'a constaté l'ANSES, donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, met en garde là encore une nouvelle fois contre le surdosage en vitamine D. Donc essayez de faire attention si vous avez des jeunes enfants avec vous. Aucun rapport, je ne cherche même pas une transition. On va parler de Léonard de Vinci. On a eu des raisons de penser en 1995 suite à la publication d'un livre par Frances Wood, qui dirigeait alors le département chinois de la librairie de Londres, de la bibliothèque de Londres, excusez-moi. On pensait donc en 1995 que Marco Polo était un mythomane qui n'avait jamais mis les pieds en Chine. Et bien voilà, maintenant qu'on en a de penser à peu près des choses équivalentes, on en sait un petit peu plus sur la mère de Léonard de Vinci, qui non seulement n'était pas italienne, mais qu'elle devait provenir du Caucase et plus précisément de ce qu'on appelle la Circassie, c'est une région en bordure de la mer Noire et qui s'étend grosso modo de la mer d'Azov jusqu'à la Géorgie. La beauté des femmes circassiennes était légendaire en Europe, au moins du temps de Voltaire et aussi de Lord Byron, qui en parlait comme d'esclaves très prisées dans les harems de l'Empire ottoman. C'est également le statut que devait donc avoir la mère de Léonard de Vinci, esclave, voire objet sexuel, revendu de Byzance à Venise, puis finalement à Florence. Alors on ne peut qu'être initialement sceptique quant à cette théorie, qui a fait l'objet d'un roman par celui qui la propose. C'est l'un des grands spécialistes italiens, Léonard de Vinci, s'appelle Carlo Vecce. C'est également un spécialiste de la Renaissance et professeur à l'université de Naples. Et comme il le raconte lui-même dans un article qui est paru sur un site internet italien, il y a quelques informations qui ont été reprises par le site Futura Science. Eh bien, ce spécialiste italien de Léonard de Vinci, Carlo Vecce, était lui aussi incrédule devant l'hypothèse déjà plus ou moins avancée avant lui, que donc Caterina, la mère de Léonard de Vinci, était une esclave venant des confins de la mer Noire et ne devait pas être identifiée avec une jeune paysanne toscane qui était nommée Caterina di Meo Lippi. Bref, le chercheur italien a voulu démontrer que cette théorie était fausse et involontairement, il vient d'apporter des preuves en ce sens qui l'ont fait changer d'avis. Il y a plusieurs articles qui reprennent cela, notamment l'AFP. Tout a changé avec la découverte dans les archives de Florence d'un document que l'on doit au père de Léonard. Il s'appelle Ser Piero da Vinci. Il était notaire de famille de notables florentins. Et il s'agit d'un acte d'affranchissement pour une femme identifiée comme la fille d'un certain Jacob et originaire du plateau nord du Caucase où vit la population circassienne. Or, comme l'explique aussi le journaliste, eh bien, l'acte est daté du 2 novembre 1452, 6 mois après la naissance de Léonard. Léonard, il est né le 15 avril 1452 et mentionne bien une Caterina. Incidemment, le nom de Jacob laisse à penser que ça pourrait être elle. On ne peut pas s'empêcher de penser que, en fait, le père a voulu libérer la mère de son fils. Bien sûr, comme l'explique un autre grand spécialiste de Léonard de Vinci, il s'appelle Paolo Galuzzi, on ne saura sans doute jamais de quoi il en retourne exactement, car il faudrait pour cela faire des tests ADN, bien que ce grand spécialiste concède que la thèse de son collègue est plutôt convaincante. Alors le plus étonnant dans cette histoire, c'est que c'est pas nécessairement l'origine de la mère de Léonard de Vinci qu'un fait incontestable et certainement méconnu de beaucoup. La première action que l'on peut en effet avoir en apprenant cette théorie, c'est que on se rend compte qu'il y a eu des esclaves à Florence et ça a un petit peu fait réagir certaines personnes. En Europe, et ça a lancé un petit peu une polémique. Mais bon, donc la mère de Léonard de Vinci ne serait pas italienne, elle serait peut-être issue de la communauté des Juifs des montagnes du Caucase et donc serait peut-être une esclave. Alors qu'est-ce que ça change? On n'en sait absolument rien. Il y a vraiment des gens qui ont essayé de faire des recherches, mais bon. Je trouvais assez intéressant parce que quelque part, on est sur un petit peu de la prospection, mais on n'a pas nécessairement énormément d'informations bien abouties. Dernière information, et peut-être que ça va vous motiver, selon une étude qui a été menée sur plus de 92 000 adultes âgés de 40 à 73 ans. Donc on est quand même sur un modèle assez conséquent de personnes qui ont participé à cette recherche. Eh bien, selon cette étude, l'activité physique permettrait de contrecarrer les risques de mortalité, toutes causes confondues, associés à une durée de sommeil par nuit trop courte, c'est-à-dire moins de 6 heures, ou alors trop longue, plus de 8 heures. C'est le docteur Zhang qui a travaillé sur ce sujet-là et qui explique « Nos résultats suggèrent que les efforts de promotion de la santé ciblant à la fois l'activité physique et la durée du sommeil peuvent être plus efficaces pour prévenir ou retarder les décès prématurés chez les adultes d'âge moyen et plus âgés. Cependant, notre étude indique qu'une activité physique suffisante peut partiellement compenser les effets néfastes d'une nuit de sommeil insuffisante. » C'est ce qu'il explique donc dans sa recherche. Alors, il y a eu différentes études qui ont été déjà menées. Ce qui est intéressant, c'est que les études qui ont déjà été menées, elles étaient plutôt sur des déclarations. Donc c'était voilà, des gens qu'on a pu interviewer. On a dit combien de nuits vous dormez, est-ce que vous faites du sport, et puis on fait une étude comme ça. Là, les données sont plus objectives parce que ça a été enregistré par différents outils, notamment un accéléromètre. Les chercheurs ont divisé la durée du sommeil en trois groupes. Celles qui avaient une durée courte de sommeil, ceux qui dormaient normalement et ceux qui dormaient un petit peu longuement, et aussi le volume total d'activité physique en trois niveaux, ceux qui faisaient pratiquement pas de sport, ceux qui faisaient du sport d'une façon modérée et ceux qui étaient des grands sportifs. Et on a un petit peu mis en corrélation tous ces événements. Et donc chez les participants avec peu d'activité physique, eh bien, que ce soit un sommeil court ou un sommeil long, c'était associé à des risques accrus de décès, toutes causes confondues. Et chez les participants avec un volume d'exercice normal, on va dire, seul un sommeil court augmentait ces risques. Enfin, pratiquer une activité physique avec un volume élevé ou d'une intensité modérée à vigoureuse diminuait les risques de décès, quelle que soit la durée du sommeil. En conclusion, bien dormir, pratiquer une activité physique suffisante contribuerait à prolonger l'espérance de vie. Et donc, si la durée de sommeil est trop courte ou trop longue, il semble que le sport pourrait compenser ce défaut. Le sport réduit donc les effets négatifs d'une mauvaise nuit. C'est le titre de cet article avec lequel nous allons nous quitter pour cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera la dernière de la saison sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain à 12h. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à toutes les émissions de Graphite. Et je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Au revoir.